tué l'amour parce que j'avais peur que lui ne me tue. À grand coup de bonheur, j'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves. Aujourd'hui, j'en crève.
Des fumées ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui va en couille.
Cannabis circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors, vous, les jeunes, vous avez fait passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et comme tous les lundis soirs, eh ben, c'est l'émission du cirque qui va vous parler de la marijuana à milieu de marche, de quelques petites brèves. Et puis on va faire quoi?
Ouais, on va faire parler de la Creuse aussi. On va aller dans la Creuse.
On va aller dans la Creuse, tout à fait. On va parler du thérapeutique parce qu'il y a beaucoup de choses. On va parler du cas d'Olivier, on va parler du CBD. Bon, il y a pas mal d'articles qui viennent du Parisien là-dessus.
Ouais, voilà. Un gros dossier dans le Parisien sur la Creuse, des paysans qui sont prêts à se lancer dans la culture du cannabis thérapeutique. C'est très intéressant.
Et ouais, donc on reviendra aussi là-dessus. On reviendra sur Le dernier rapport du Think Tank Génération Libre, qui est une émanation de Gaspard Koenig, hein, qui veut faire un truc différent, mais qui est intéressant. On en parlera, on reparlera du Canada avec Trudeau qui fait la légalisation. Alors là, ils nous l'ont annoncé sur le 1er juillet, ça serait avancé.
Non, c'est ce qu'ils avaient dit. Non,
je croyais que ça avait été retardé. Mais
ça sera retardé. Ça sera retardé.
C'est le journaliste qui n'était pas très très au fait alors de
j'ai pas l'impression. Oui, peut-être.
Voilà.
Ou alors ils ont mis les bouchées doubles au Canada pour que ce soit prêt pour le 1er juillet, ce qui est possible aussi.
Si,
mais ça m'étonne.
Si le Sénat est prêt à canner, ça peut aller vite.
Alors, à propos du Canada, on en reparlera tout à l'heure, mais juste une petite info. Il y a les différentes provinces sont pas toutes d'accord au Canada sur la question, et notamment sur la question de l'autoproduction. Et il y a des États qui veulent pas. Ah, et ben Trudeau a dit que il allait l'imposer en fait, et que les gens auraient la possibilité de s'autoproduire. En tout cas, ça part dans cette direction, ce qui est une super nouvelle.
Ça serait bien.
C'est une super nouvelle. Donc bon, on verra d'ici le mois de juillet, c'est-à-dire très, très bientôt en fait.
Voilà, et puis sinon on ira faire un tour en Belgique avec Rando Kahn qui est en attente d'une autorisation pour se mettre à cultiver.
Rando Kahn,
ouais. Ouais,
pas Bedro Kahn.
Comment ?
C'est pas Bedro Kahn comme en Hollande, là c'est Rando Kahn en Belgique. Mais...
Voilà, des petits changements de nom.
Voilà.
Et enfin, le Michigan va peut-être devenir le 10e État à légaliser le cannabis.
Sacrée nouvelle également, ouais. Mais aux États-Unis, c'est gagné. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que même dans le monde, on a gagné.
Oui.
C'est en train de se concrétiser petit à petit, mais la prohibition.
Le balancier est parti de l'autre côté.
De l'autre côté, oui. Voilà. On est bien d'accord.
Après, il faut savoir jusqu'où il va s'arrêter.
Et puis, il peut revenir.
Ouais, il peut revenir.
Malheureusement.
Le mieux, c'est qu'il n'aille pas trop loin et qu'il s'arrête à un bon milieu.
Bah, de toute manière, moi je suis pas d'accord, j'aimerais bien qu'il aille très loin, parce que s'il va très loin, on peut penser que ça peut venir jusqu'à nous. S'il va pas bien loin.
Ah oui, d'accord.
Enfin, ouais, après, bon, ça dépend comment on conçoit le balancier.
Il faut qu'il aille loin, il faut l'emmener le plus loin possible.
Je pense.
Il faut l'emmener le plus loin possible, puisque de toute manière, la bonne idée, c'est pour les majeurs, bien entendu, une légalisation de toutes les drogues. Presque toutes les drogues, il faut faire attention. Il y a certains qui mettent quand même des bémols sur certaines nouvelles drogues qui apparaissent, puisque plus on en interdit, plus il y en a d'autres qui apparaissent. Et il y a certains produits qui sont mauvais. Donc peut-être s'arrêter aux plantes, juste aux drogues légales, ou aux drogues naturelles, dirons-nous. Puisqu'elles sont illégales toujours, n'oublions pas. Voilà, ça serait ça, moi, mon rêve. Mais bon, et puis à partir de là, on verra bien. En tout cas, bon, on va faire quand même, on s'appelle pas tous Ordisson.
Oui, voilà, parce qu'en attendant, en France, c'est le règne de la justice à 36 vitesses. Hein ? Alors là, c'est Thierry Ardisson. Je pense que vous voyez à peu près de qui il s'agit. Hein. C'est un publicitaire, un animateur de télévision qui tout récemment s'est fait attraper. Gare du Nord à Paris. Il revenait d'un voyage à Londres. Et il a été contrôlé avec 7 grammes de cannabis sur lui. Et on apprend donc qu'il aurait écopé d'une amende de 50 euros. Voilà. Mais moi, ça me fait bondir. Quand je lis un truc comme ça, c'est scandaleux. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui passent plusieurs jours en garde à vue pour posséder 7 grammes, parce que 7 grammes, selon les juridictions, selon qui vous êtes, selon où vous êtes arrêté, ça peut être considéré comme de la possession. La possession peut être considérée comme un début de trafic, et on peut vous emmerder longtemps. Mais comme c'est Thierry Ardisson, on lui file 50 euros d'amende. La réforme actuelle au niveau de l'amende forfaitaire, c'est quand même 300 euros. Lui, on lui met une amende de 50 euros et tout le monde sait qu'il consomme depuis des années.
Oui,
n'importe qui se retrouve...
Il a revendiqué derrière l'article qui vient d'un journal que j'aborde. Donc,
Closer pour pas le nommer. Là, c'est Valeurs Actuelles. Oui.
Voilà, pour pas le nommer.
Alors, ça a été repris dans un autre canard aussi. Hein.
D'accord.
J'ai pas pris start.
T'aurais mieux fait de mettre l'autre alors.
Il est moins bien. Ah. Il est plus long, mais il est pas forcément mieux. Là, j'ai trouvé que ils allaient au comment dire à l'essentiel. Et en plus, ils parlent de l'amende de 50 euros. Dans l'autre article, ils parlaient pas qu'il s'était pris une amende. Ils parlaient juste qu'il s'était fait choper.
Voilà. Mais et a donc écopé d'une amende de 50 euros. Je ne sais pas si c'est voilà, c'est ça que j'ai qu'il faudrait vérifier quoi quand même.
Oui, oui, effectivement, tu as raison. On peut effectivement vérifier.
Les seuls qui peuvent l'avoir lui avoir mis.
C'est la douane.
C'est les douanes, voilà.
Mais ce qui c'est tout à fait
si
possible.
C'est les douanes, l'article est valable.
Est possible. Enfin, oui, le.
Si c'est les douanes, l'article est possible. Voilà, bon, pas grand chose à rajouter sur cet article.
Non, juste le fait que je pense que n'importe qui d'autre qui se serait fait choper, qui s'appelle pas Ardisson, aurait eu certainement beaucoup plus d'ennuis. Voilà. Et si vous voulez, c'est un peu le problème. En France, on sait que dans le milieu du showbiz, il y a l'usage de produits stupéfiants, de certaines substances, même parfois en poudre. Tout le monde le sait. Paris, c'est un gros village. Hein. On a des camarades du cirque qui militent et qui travaillent dans des structures d'accompagnement des usagers de drogue, qui connaissent des personnalités. Tout le monde le sait. Et ces personnes, ces gens-là ne subissent pas les foudres de la justice et de la police. Voilà. Alors qu'on sait qu'en France, il y a 200 000 interpellations. En 2016, il y a 1400 personnes qui ont fini en prison pour un usage de cannabis ou une possession ou un petit usage partage-revente. Non, c'est intolérable. Voilà. Je vous le dis carrément, c'est insupportable. Voilà. Je n'en dirai pas plus.
Oui, c'est vraiment. Tu dis oui. C'est,
non, c'est pas normal. Il y en a qui.
Pas loin de 200 000, 150 000, 170 000.
Bah, 200 000 sur les drogues et 90% des 200 000, c'est sur le cannabis. Donc voilà.
Mm-hmm. Ok. Allez, on se fait une petite zig parce que bon, on va vous parler de la marée.
On se la fait. Allez, lance la musique.
Et puis, il est passé sur les ondes pendant la marée au 1 million de marches. Donc on va le
à Paris,
passer un peu. C'est TFN.
À tout de suite.
Sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se taperait bien. La fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens. La fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Qu'elle nous prend par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin à soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Pédaler dans les nuages au milieu des petits. lapin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de juin, 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 la fille du coupeur de juin,
la fille du coupeur de juin.
Ouais, c'était Hubert Félix Thiéfen, une chanson mythique, mythique d'entre les mythiques, dont on n'a même pas besoin de vous dire le titre, que vous la connaissez déjà. Donc, on va parler un peu des marches mondiales, des événements cannabiques là, qui ont eu lieu ces dernières semaines. Donc, à Lyon et à Paris, là, c'était samedi. On pourra parler un peu de la marche aussi qu'il y a eu à Paris, donc pareil samedi dernier. Il y a eu aussi un rassemblement à Saint-Flour dans le Cantal, il y a également eu un rassemblement à Poitiers, il y en a eu également un à Nantes. Par contre cette année, Marseille, que dalle.
Voilà. Je sais pas, oui, a priori.
Alors, Marseille, rien du tout, Nice, rien du tout. Alors, Tours... Il n'y a rien eu à Tours, mais le camarade du Cirque Centre est venu à la marche lyonnaise samedi.
D'accord.
Voilà, on était également extrêmement heureux d'accueillir à nos côtés des militants du territoire de Belfort, Dominique Loumachi, qui est venu avec deux de ses camarades. Donc vraiment, bravo à eux, merci à eux d'être venus. Puis, mais globalement, merci à tout le monde et félicitations à celles et ceux, aux courageux et courageuses, qui sont venus défiler avec nous.
Plus d'une centaine de personnes.
Une petite centaine.
Ouais, une petite plus centaine. Que l'année dernière.
Ah oui, trois fois plus. Ouais.
Bah moi, l'année dernière, je disais qu'on était presque 100. Donc
l'année dernière, on était à peine 30.
Ouais, au début.
Voilà, tu penses que tu confonds avec il y a deux ans. Il y a deux ans, effectivement, on était une bonne centaine, même un peu plus. On était même plus qu'à l'année que samedi. Il y a deux ans, en 2016, c'était un énorme succès à Lyon. Quoi. Il n'y a que l'année dernière où. Bon, on a eu un petit problème d'effectif pour organiser l'événement et du coup, bon, ça s'est sans doute ressenti le jour même, mais bon, voilà, samedi, on était quand même une bonne centaine. Et du coup, ça fait quand même pas énorme hein, quand on voit la masse de gens qui se sont rassemblés à Ottawa, à Vancouver, à Buenos Aires, en République tchèque, alors j'ai pas encore vu les images. Mais y a, voilà, dans plein de pays, ça attire des milliers et des milliers de personnes. Hein, des milliers, quoi. C'est, je sais pas, au moins 100 000 personnes à Buenos Aires. Je crois qu'à Rio, c'est à peu près ça. Là où j'ai vu le moins de gens, c'est à Leeds, en Angleterre. Une photo aérienne où on voit un rassemblement, mais il y a au moins, je sais pas, au moins 1500 personnes, quoi. Et Leeds, c'est pas la capitale de l'Angleterre. À Paris, on était à peine 1300, qui est quand même une grosse ville en France. Donc voilà, ça reste quand même un événement qui attire assez peu de monde en France, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je crois que pour les manifestations du 1er mai, je crois qu'il n'y a pas eu énormément de gens non plus, mais je me trompe peut-être, il me semblait.
C'était que... Bah,
à peu près pareil que d'habitude, non?
Sur Lyon, on était 6 à 8 000, je pense.
Ah oui, non, mais c'est beaucoup, alors...
Non,
je dois confondre avec des années où il y a eu moins de monde. Alors.
C'était une manif correcte cette année, le 1er mai. Ouais.
D'accord. Bref, donc voilà, à Lyon, en tout cas, c'était samedi. Il y avait un peu de médias, il y avait notamment Libération. Il y avait également RTL, par contre, RTL, on n'a rien retrouvé dans la presse. On a répondu au journaliste d'RTL qui est venu avec son micro et son poste pour prendre du son, là. Mais j'ai pas eu de nouvelles quand... par rapport à un article ou une suite d'articles. Pour l'instant, j'ai rien vu. On verra s'il y a eu autre chose. Alors, en tout cas, dans Libération, y a un article. Maïté Darnaud, qui était la correspondante lyonnaise, donc qui était là, était là et elle est venue nous voir parce que l'article a été publié sur Rébellion. Donc, là, super. Et alors, voilà, à Lyon, un certain nombre de militants, les militants qui étaient là, ont quand même pointé l'hypocrisie du gouvernement, notamment l'hypocrisie du ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Qu'est-ce qu'il raconte un mec là qui a répondu, un mec qui s'appelle Jérôme, là je sais pas qui c'est celui-là, un mec du cirque, qui répondait à la journaliste qui voilà, venait nous interviewer, et ce gars-là il dit bah, Collomb, hein, il en connaît pourtant des fumeurs, hein, dans la petite équipe qu'il a aidé à devenir maire de Lyon, un certain nombre de ses soutiens faisaient tourner des joints dans des soirées. Ça te dit quelque chose, ça ?
Je sais pas.
Tu étais pas à l'époque avec Gérard Collomb ?
Tes propos n'ont pas été déformés.
Hein ?
Tes propos n'ont pas été déformés.
Bah non. Non, c'est très bien.
Ta façon de le dire est très très subtile et très très
bonne. Elle l'a très bien repris. Je l'ai dit un peu plus brouillon que ça, mais quand j'ai lu, trouvé que c'était bien repris. Voilà.
Et je trouve que c'est subtilement écrit.
Et très bien, voilà. Donc voilà, quand il a été élu, hein, alors donc voilà, il faisait tourner des joints en soirée, des soirées auxquelles participait Gérard, hein, sans dire qu'il fumait, hein, c'était pas du tout le propos, mais au moins il en a connu des fumeurs. Voilà, et maintenant qu'il... Alors voilà, oui, et quand il a été élu, parce qu'il faut le dire, hein, c'est vrai, quand il a été élu, Gérard Collomb, il nous a quand même laissé organiser l'appel du 18 juin en paix, ce qui est à mettre à son crédit. Voilà. Par contre, maintenant qu'il est ministre, voilà, on attend de lui autre chose que des contraventions, et cette nouvelle amende, on ne voit vraiment pas à quoi ça va servir. Jugez le Jérôme en question qui répondait à la journaliste de Libé et qui était membre du cirque, bien sûr. Donc voilà, là, elle reprend dans l'article ce qu'on lui a un peu raconté aussi, hein, c'est que il y a eu un arbitrage qui a été fait entre les deux propositions des deux rapporteurs du projet de loi sur la contraventionnalisation. Donc c'est finalement la proposition du député République En Marche, Éric Pouya, qui souhaitait donc infliger une amende forfaitaire de 300 euros pour punir l'usage du cannabis. Une mesurette marginale plutôt qu'une réforme véritable et cohérente, afin d'éviter tout procès en laxisme, comme nous le disions dans notre communiqué de presse.
Juste pour être parfait, ouais, il faudrait dire une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros.
Tout à fait.
Parce que cette petite nuance a l'air de rien, mais ce petit délictuel change tout, puisque a posteriori, même si vous avez payé les 300 euros tout de suite, la police peut vous convoquer pour vous questionner.
Et pour vous poursuivre pénalement.
Pour vous poursuivre pénalement à la limite, mais ce ne serait pas ça, mais pour prendre vos...
Vos empreintes digitales et un test et une prise d'ADN, un fichage ADN.
C'est possible aussi. Voilà. C'est pour mettre au fichier, au FNAG.
Au FNAG, ouais.
Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros est quand même assez importante, parce que ça reste un délit, donc...
Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, nous l'avons bien souligné pendant la manifestation.
Voilà, c'est une connerie de plus, comme a dit un autre de nos camarades qui a été écouté. Encourager la chasse aux fumeurs, ça ne règle rien. La police et la justice s'envoient déjà pour arrêter les petits et les grands trafiquants, ils ont autre chose à faire. Voilà, un autre camarade, Sébastien, disait « Cette substance est mal gérée en France, alors qu'elle n'est pas dangereuse pour la société. Rien à voir avec les problèmes liés à l'alcool. Pourtant, pour consommer, on doit accéder à des marchés illégaux. »
Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on disait d'autre à cette journaliste de Libé ? On lui disait quoi ? On lui disait qu'il faut autoriser l'autoproduction, faciliter la production et la revente, en faisant payer aux producteurs une espèce de patente pour qu'ils puissent se fournir dans une coopérative avec une certification bio garantissant un taux de THC convenable, pourquoi pas. C'est ça qui permettra la revente aux particuliers avec un maximum d'informations, de prévention, de réduction des risques. La prohibition empêche de se pencher réellement sur les enjeux de santé publique. Et donc, par rapport à ces amendes et tout, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on est prêt à payer des taxes, en fait, hein, à donner de l'argent à des institutions pour qu'elles gèrent cet accompagnement, entre autres, et que les taxes prélevées puissent voilà, permettre de financer différentes institutions de santé. Un malade également qui s'exprimait, bah, notre camarade Dominique Loumachi, qui venait du territoire de Belfort, qui lui disait qu'il y avait une prise en charge plus qu'urgente à mettre en place, notamment en matière d'usage thérapeutique. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait d'autre? Il disait, bah, pour nous les malades, hein, il est atteint d'une myopathie, il a une sclérose en plaques plutôt, je ne me rappelais pas que c'était une myopathie, bon, je ne sais pas. Donc la désobéissance civile est un devoir, disait-il, le devoir de vivre et de lutter contre les associations de malfaiteurs que sont les pharmacopées légales. Voilà. Bon. Rien de plus dans cet article, mais c'est déjà pas mal.
Si, la petite pirouette à la fin de l'article, donc dispersion tranquillement place Bellecour, comme dit un habitué de cette marche, et qui rajoute avec un sourire, on n'est pas des délinquants.
Dispersion au hôtel, place d'hôtel de ville, hein. Voilà, place des terreaux, pas place Bellecour, mais on est allé un peu plus loin. Voilà, maintenant, à Paris, donc quelques articles, un article dans Sud-Ouest, un autre dans 20 minutes.
Très proche l'un de l'autre
d'ailleurs. Ouais, quasiment, deux articles quasi identiques. Alors donc, ce qu'on disait entre nous avant l'émission, c'est que dans l'article de 20 minutes, l'article de 20 minutes est illustré par une photo, qui est une photo prise durant la marche, durant la manifestation à Lyon, alors que l'article parle de la manifestation à Paris. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu bizarre. L'article de Sud-Ouest est cohérent entre l'affichage, l'image et le texte. Alors, à Paris, il y a eu du monde quand même, hein, à peu près 1300 personnes. Ça reste une mobilisation assez faible, hein, quand on voit les images, par exemple, de Buenos Aires, de Paris, tu parlais de Prague également, où on voit vraiment une masse de gens, San Francisco, Ottawa, Vancouver, mais c'est des dizaines de milliers de gens. Hein,
c'est des places, ce serait la place Bellecour pleine, quoi.
Voilà. Donc à Lyon, avec nos 100 personnes et 1300 à Paris, on fait vraiment office de petits joueurs, hein, dans le monde. Hein. L'Allemagne aussi attire du monde. Madrid, je sais pas, j'ai pas vu. Madrid, il y avait une marche à Madrid. Je crois que c'était le 5 mai, mais en tout cas, c'est pas très dur de rassembler plus de monde qu'en France. Voilà. Alors ils avaient en plus des moyens quand même à Paris, ils avaient un bus à Impérial avec DJ, musique et tout, rap, reggae, techno, etc. Et bien sûr, les militants qui disaient parfois certaines choses assez proches de ce qu'on a pu dire nous-mêmes à Lyon. En tout cas, notre camarade Farid disait, ben voilà, en France, on entend en France un discours abominable qui empêche une vraie prévention des effets néfastes de l'usage du cannabis, notamment. Même des policiers en ont marre de cette chasse à la boulette. Légaliser, ce n'est pas inciter les gens à prendre plus de drogue, au contraire. Et ensuite, ils disent également, voilà, les autres pays n'ont jamais autant avancé. La France, ben, elle est restée bloquée. Il y avait également présent, en plus des militants et militantes, il y avait la sénatrice écologiste Esther Benbassa, que nous saluons, la seule politicienne que nous connaissons, en tout cas, à avoir déposé un projet de loi de légalisation du cannabis, c'était début 2014. Donc elle était là pour apporter son soutien à la canaparade. Également présent parmi les célébrités, je suis surpris que dans ces articles, on ne le voit pas, Édouard Baird, qui répondait à une interview sur France Inter, je crois, en milieu de semaine dernière, et dans laquelle il racontait que voilà, samedi, il allait à la canaparade à Paris. Donc voilà, une célébrité en tout cas qui se mouille sur la question. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, donc toujours Esther Benbassa, hein, qui disait « Je n'ai jamais consommé, mais je pense qu'aujourd'hui, dans un pays démocratique et moderne, l'usage du cannabis récréatif ne devrait plus être puni. À cause de ce tabou, on ne légalise pas le cannabis thérapeutique dont des milliers de personnes ont besoin », poursuit-elle. « Quant à l'amende délictuelle de 300 euros pour usage de stupéfiants que le gouvernement prévoit d'instaurer, ce n'est absolument pas la dépénalisation », Bah, merci hein, de nous le redire, hein, parce que quand on entend toutes les bêtises qu'on entend ces derniers mois, là. Donc elle y voit elle, également une inégalité de traitement entre ceux qui pourront payer et ceux qui ne pourront pas et subiront donc les aléas d'un jugement, ce qui est également très probable. Voilà, puis donc cet article termine en nous parlant du Canada qui devrait légaliser cet été, un peu après, donc 5 ans après, l'Uruguay qui a été le tout premier pays à avoir légalisé le cannabis. Voilà, bon, je ne vous remets pas le couvert sur l'article de 20 minutes qui est quasiment le même. On va maintenant donc tout de suite s'intéresser à cet article de lamontagne.fr qui nous parle d'un petit rassemblement à Saint-Flour dans le Cantal. Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre dans la revue de presse l'article qui nous parlait de la mobilisation à Nantes. Il y avait également un tout petit article qui nous parlait d'une très faible mobilisation à Nantes. Et là, à Saint-Flour, visiblement, pas grand monde non plus. Bon, après Saint-Flour, c'est quand même une toute petite ville ou un très gros village, hein, on va dire, dans le centre sud-est, on va dire, du Cantal. Et on a un camarade là-bas, notre camarade Manu, hein, qui à une certaine époque était au Cirque à Lyon, et qui animait donc ce petit rassemblement à Saint-Flour. Et il représentait, lui, une association qui s'appelle La Clé des Chanvres. Et cette marche, ou plutôt ce rassemblement, était organisé en partenariat avec le SEL Florin, donc le système d'échange local, je pense, pour sensibiliser la population saint-florenne aux bienfaits du cannabis à but thérapeutique. Il y avait quand même d'autres personnes qui étaient sur place. Philippe, un malade notamment, un consommateur régulier depuis de nombreuses années, qui dit voilà, c'est d'abord pour l'aspect récréatif, ensuite pour le côté médicinal. Car il dit, voilà, moi je suis asthmatique. Mais il venait surtout en hommage à son neveu, atteint de fibromyalgie, qui est décédé il y a un an, et qui aurait souhaité participer à cette manifestation, estimant que ce sont les cachets qu'on lui a donnés pour qu'il ne souffre pas qui ont tué son neveu. Son cœur n'a pas tenu. S'il avait eu accès au cannabis, il ne serait peut-être pas mort. Le président de l'École nationale du chanvre de Mende, Rémi Chorda, également était présent à ce rassemblement pour, je cite, montrer que le chanvre, ce n'est pas que le pétard et la drogue, qui s'utilisent aussi, par exemple, dans la construction ou la cuisine. Et c'est très bien de le mentionner également. Voilà.
Tu nous as mis aussi un petit article, pardon, de Saint-Louis et de Port-Saint-Louis, qui est sorti de l'Express.
Oui, à l'île Maurice.
Oui, tout à fait, pour une marche pour la légalisation du cannabis, une réussite selon les organisateurs.
300 personnes. Voilà, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout, dans un pays où ils sont extrêmement répressifs aussi, hein, à l'île Maurice, attention. Et ils arrivent à être plus nombreux qu'à Lyon. C'est quand même fort. Hein. Port-Louis, il n'y a pas 20 millions d'habitants à Port-Louis. Hein. Mais voilà, 300 personnes ont quand même répondu à l'appel de différentes ONG pour réclamer la légalisation du cannabis. Il y avait quoi comme association? Il y avait le collectif 420. Il y avait également Prévention, Information et Lutte contre le Sida. Cannabis Legalization and Informative Movement, le collectif Urgence Toxida, voilà un peu donc les participants, les membres des ONG qui animaient la manifestation.
Et il y avait aussi les Rasta quand même, les
unités
Rasta qui étaient représentées.
Tout à fait. Honte à moi de les avoir oubliés.
Qui nous l'est, Gandia.
Voilà, donc oui, c'est intéressant. Dans l'article, on reprend des propos en créole. Hein, on dirait que c'est du créole, je sais pas. Je pense qu'ils réclamaient à peu près la même chose que nous, mais autrement, enfin dans la langue locale. Voilà.
Voilà, tout à fait. Bon, après, il y a eu quelques provocations aussi pendant la manif, mais bon, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble.
Quelqu'un qui était
très, très content.
Visiblement, il a eu du mal à comprendre ce qu'il voulait, mais bon, il était là pour protester, bref. Oui.
Tu veux parler du Chili avec le petit collectif
Par exemple, oui.
Allez, je te laisse finir alors.
par exemple. Donc, il y a eu également des rassemblements, des marches. Alors, maintenant, vous savez, il n'y a plus que la marche mondiale. Il y a la marche mondiale, mais il y a aussi le 420. Alors, ce qui fait que finalement, c'est pas plus mal finalement, parce que finalement, il y a des entre fin avril et pour le Brésil fin juin, il y a des événements canactivistes dans le monde entier. Mais les meilleurs, c'est vraiment le Brésil. Hein. Franchement, alors là, il y a quand même eu des événements, il y a eu des rassemblements, des trucs courant avril, et ça se termine, je crois, fin juin. Alors là, au Chili, il y avait également quelque chose dans différentes villes. Alors, au Chili, il y a des villes qui ont fait le 420, il y a des villes qui ont fait la marche mondiale. Alors, il y avait Santiago, mais il y avait aussi Valparaiso, dans différents endroits. Et là, en fait, c'est un article de Science et Avenir hein, qui nous parle du combat des mamans, de ces mamans cultivatrices de cannabis. Alors, au Chili, ils sont quand même plus en avance que nous sur la question du cannabis, hein, ce qui est encore quelque chose qui paraît incroyable, mais c'est la réalité. Par contre, au Chili, on n'a encore pas le droit de cultiver son cannabis, hein, même pour des raisons médicales. Alors là, le combat de ces mamans, c'est justement celui-ci. Hein. Paulina donc, est une hors-la-loi, nous explique Science et Avenir, puisqu'elle défie l'interdiction au Chili de planter du cannabis, mais elle en cultive et elle n'est pas prête de s'arrêter. Ravie, dit-elle, hein, des effets bénéfiques qu'elle dit constater sur sa fille Raviera, qui est épileptique. Alors, il semblerait que ce soit le syndrome de Dravet. Si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je me rappelle pas du nom de l'autre syndrome. Mais en tout cas, voilà, les préparations qu'elle fait elle-même, hein, tous les jours, elle administre à sa fille 30 gouttes d'huile de cannabis et 15 grammes de cannabidiol, en fait. Et grâce à ce traitement, les crises de sa fille sont passées d'une centaine de crises par jour à une bonne crise par semaine.
Voilà, tout à fait. Des convulsions et elle s'infligeait des blessures et c'était vraiment
jusqu'à s'arracher les ongles.
Voilà, donc très très
petite violent. Fille de 11 ans quand même. Hein.
Et donc là, maintenant que ça lui arrive même une seule fois par semaine, c'est mieux parce que évidemment avec tout ça, il y a toute la vie sociale qui part à volo. Ses amis l'invitent pas. Elle est toute seule. Elle est rejetée puisque voilà, chaque fois qu'elle va à un anniversaire, si elle fait une crise, ça fout le Bronx et ça fout l'anniversaire en l'air. Donc voilà, c'était très très compliqué.
Voilà, alors donc le terme, là, je n'avais pas vu, donc ce mélange, hein, 30 gouttes, 15 grammes, voilà, pour soigner donc une épilepsie réfractaire, donc qui est résistante aux médicaments. Et également, cette petite fille est atteinte d'une sclérose tubéreuse, une maladie causant des tumeurs bénignes. Voilà. Alors, cette dame de 38 ans est présidente d'une fondation qui s'appelle Maman Cultive, qui rassemble à peu près 600 mères. 600 mamans cultivant de la marijuana pour soigner leurs enfants. Cette maman, elle cultive 10 plants de cannabis de différentes souches. Hein. Alors, elle récolte et ensuite, elle fait des préparations hein, d'une manière totalement artisanale, hein, si on comprend bien, en mélangeant la résine de la plante avec de l'huile d'olive. Elle obtient une huile qu'elle administre sous forme de gouttes à sa fille depuis ses 5 ans, avec, dit-elle, des résultats remarquables. Et je cite cette maman, « En une semaine, tous les signes d'agressivité ont diminué. » Jusque-là, nous n'avions plus l'envie ni la force d'avancer. Cela nous a apporté une lueur d'espoir après tant de temps à souffrir, raconte-t-elle. Elle a été diagnostiquée, cette petite fille, à l'âge de 8 mois. Voilà. Elle était secouée au quotidien de convulsions, comme tu disais. Hein. S'infligeait des blessures, allant jusqu'à s'arracher les ongles. Désormais, elle n'a plus qu'une grosse crise par semaine et sa vie est transformée. Et elle peut notamment aller à l'école. Parce que c'est sûr qu'avant, quand vous avez une centaine de crises par jour, vous ne pouvez absolument pas aller à l'école. Vous êtes complètement invalide. Hein. C'est extrêmement invalidant. Voilà. En 2013, Paulina a découvert des vidéos d'enfants épileptiques soignés avec du cannabis médical cultivé à domicile par des Américains aux États-Unis. Hein. Et pendant 3 mois, de manière clandestine, elle a acheté de la drogue à des dealers dans la rue au risque d'être arrêtée par la police. Et elle dit, c'est une vraie résistante cette maman, elle dit « Moi la loi, je m'en fichais, ce qui m'importait c'était qu'on me donne un bon produit. » Bien sûr j'avais peur, il fallait trouver où en acheter et donner de l'argent, à attendre sans savoir s'ils allaient revenir. Puis ils te remettent le paquet et tu dois partir en courant. Donc après on comprend quand on a son enfant qui est atteint de ce genre de troubles qui peuvent être mortels. Hein. on est prêt à prendre tous les risques, ce qui est bien normal. Ensuite, elle a décidé de cultiver chez elle, au mépris de la législation locale, qui l'interdit, hein. De même que d'ailleurs la consommation sur la voie publique. Seul l'usage privé est autorisé. Voilà. En 2014, aux côtés de la fondation DAIA, qui promeut la culture individuelle de marijuana à usage récréatif et médicinal, elle rassemble d'autres femmes dont les enfants sont atteints de maladies réfractaires ou de cancer. Et sous le nom provocateur de Maman Cultive, elles sont aujourd'hui 600 mamans soulagées d'avoir trouvé ce traitement alternatif. Je cite encore, on a essayé les meilleurs médicaments et rien ne procure à nos enfants la qualité de vie dont ils profitent maintenant avec le cannabis. L'association donc Maman Cultive milite aussi pour dépénaliser la culture de la marijuana à des fins thérapeutiques et éviter ainsi que la police les arrête régulièrement pour détruire leurs plans. Le Parlement chilien étudie actuellement une loi en ce sens, actuellement, depuis une dizaine de jours. Et donc, à l'occasion de la marche mondiale du cannabis, des milliers de manifestants ont manifesté à Santiago du Chili pour réclamer la dépénalisation. Ça, c'est beau. Face au traitement à base de cannabis vendu en pharmacie à des prix allant de 70 à 300 dollars, nous voulons un accès éthique à ces médicaments, clame Paulina, dont l'initiative, apprend-on dans cet article, a été imitée dans la région. Argentine, Colombie, Mexique, Paraguay et Pérou, réunissant au total plus de 5000 mères de famille. Moi, je suis admiratif devant ces femmes. Je suis admiratif devant l'exemple qui nous est permis d'observer en Amérique du Sud. Voilà, je suis vraiment admiratif. Et je me dis que, franchement, on n'assure pas un cachou, quoi. Enfin, en tout cas, encore une fois, bravo et félicitations aux quelques personnes qui se sont bougées en France pour venir défiler, se mobiliser, que ce soit à Saint-Flour, à Nantes, à Paris, à Lyon. Encore une fois, bravo et merci, quoi. Allez, musique.
Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you want. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you like. 'Cause I feel happy anytime you think of it, anytime you roll it. Don't be small, don't smoke it all, don't make my joints so small. 'Cause ganja, ganja, ganja's right for me. 'Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Ganja, ganja, marijuana. Ow. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana
is what we need.
Ganja, ganja, marijuana is what we need.
Oye, caramba!
Ah, oh, marijuana, marijuana. Et donc, c'était les Castafors, Bazooka, évidemment.
Voilà, qui ont eu l'honneur de pouvoir primer leur talent pendant la marche de samedi à Lyon. Voilà.
Ah, parce qu'elle était super sympa avec un petit vélo musique, c'est ça?
Oui, alors, t'as raison, on allait oublier d'en parler. Donc, on remercie, on félicite, bravo en tout cas.
C'est des copains de Grenoble.
À des copains de Grenoble qui ont un vélo équipé d'une sono, une espèce de trichot, en fait. Enfin, c'est trop sympa. Ça s'appelle la Sono Bécane. Il y a une page Facebook si ça vous intéresse, voilà, Sono Bécane. Et donc, on remercie Paco et Pépé, je crois, qui étaient là, qui sont venus de Grenoble tous les deux pour ambiancer, sonoriser la manifestation à Lyon. Voilà, un grand merci à la Sono Bécane et à nos camarades de Grenoblois. Voilà, super. Et on espère qu'ils seront là l'année prochaine, s'il y a une marche mondiale l'année prochaine, ce qui est fort probable. Alors, maintenant, on va faire un petit tour dans la Creuse.
Ouais, voilà. Le cannabis thérapeutique, la ruée vers l'or vert a commencé. Bon, vous en avez déjà parlé, mais ça continue. Hein. C'était en fait le début, c'est que c'est un député de la Creuse qui a dit « Ouais, on veut faire une expérimentation, ouais, je veux bien que la Creuse on fasse une expérimentation sur le cannabis. » Alors, il avait dit d'ailleurs récréatif, pas forcément médical au début.
Ah ouais, je m'en rappelais pas.
Il me semble, hein, ouais, la première fois qu'on en avait parlé. Et puis là, donc, avec le CBD qui est en vente libre dans certaines villes, il y a des paysans qui se disent, il faut qu'on arrive à faire du chanvre qui fonctionne. Il faut qu'on fasse du chanvre qui fonctionne, qu'on puisse cultiver, donc sans THC et avec du CBD, puisque ça, ils ont le droit. Alors, il faudrait qu'elle soit dans celle autorisée, mais bon. En tout cas, il y a plusieurs paysans qui sont prêts à le faire, et un même qui a déjà commencé, a priori.
Alors,
comme le dit l'article.
Oui, il nous parle d'un certain marin. Et alors, nous, on ne le connaît pas directement, mais on a nos camarades de Ananda et compagnie. Transformateur en produit chanvre depuis pratiquement 20 ans, qui travaille avec Marin. Ils le connaissent bien, chez Ananda et compagnie. Ananda et compagnie qui produisait de l'huile de chanvre à Villeurbanne il y a quelques années encore, qui maintenant est en Savoie. Mais voilà, une partie des graines de chanvre qui sont achetées par Ananda, qui est l'un des transformateurs en produit chanvre en tout cas, viennent de la Creuse. Bon, pas que, hein, parce que produisent pas des volumes énormes, du coup ils sont un peu obligés d'avoir différents fournisseurs, mais en tout cas celui-là on le connaît et ils vendent des très bonnes graines, paraît-il, de très bonne qualité. Alors en tout cas voilà, suite à cette annonce faite par monsieur Correa, qui est un élu de la région Nouvelle-Aquitaine, visiblement suscite un grand enthousiasme parmi pas mal d'agriculteurs qui sont prêts à se lancer en fait dans l'aventure. Alors il y a quand même un courrier qui a été envoyé par monsieur Correa, donc qui est un élu du Parti Socialiste au départ, qui a donc écrit au président de la République pour lui demander une dérogation, pour que l'État mette en place une dérogation pour pouvoir faire pousser du chanvre. Alors là, on nous parle de chanvre thérapeutique. Hein. Le président de la République n'a pas encore répondu. Les paysans du coin, visiblement, sont tout excités par ce projet. Donc voilà, il y a une série de plusieurs articles qui nous parlent un peu de l'ambiance qui règne là-bas. Il y a eu une interview de différents cultivateurs dans un autre article du Parisien. En tout, il y a 3 ou 4 articles.
Oui, parce que avec un hectare, on pourrait faire vivre une famille. Certains paysans aujourd'hui, quoi. C'est vrai que comme c'est très rare sur le marché, c'est très cher. Hein. Si ça devient légal, il y aura beaucoup plus de gens qui s'y mettront. Donc le prix va forcément baisser. Mais néanmoins, quoi, ça laisse perplexe et puis ça laisse quand même des débouchés. Ça pourrait, si on table sur un chiffre d'affaires de 500 à 2 milliards d'euros, comme ils disent, ça peut faire, c'est une sacrée manne financière et ça peut faire vivre pas mal de paysans, mine de rien. Ou en tout cas, apporter un complément à quelqu'un qui fait de la polyculture, ce qui est le mieux, puisque d'ailleurs, on sait par tradition que le chanvre en jachère. Et la meilleure façon de le cultiver. Et est très bonne pour faire reposer la terre aussi.
Tout à fait, ouais. Ouais. Et oui, parce que les racines de chanvre ont des propriétés phytoremédiatives. Je crois que c'est le terme exact. Hein.
C'est exact.
La phytoremédiation, c'est ça.
Et enfin, dans l'article aussi, il y a une phrase qui m'a fait sourire, même un encart. Le chanvre fait partie de la pharmacopée ancestrale. Alors, c'est vrai, mais c'est pas si ancestral que ça, puisque ça fait à peine 50 ans. Non, un peu plus de 50 ans, 70 ans que ça a disparu.
Mais Jacques,
quoi ?
70 ans, c'était au siècle dernier. C'est comme si c'était il y a 1000 ans, dans le monde dans lequel on vit. T'en rends compte, il y a 70 ans, il n'y avait même pas Internet. Il n'y avait même pas de smartphone. Non, bref. trêve de plaisanterie, mais oui. Mais si, en fait, c'est... Enfin, quand ils disent ancestral, c'est pas uniquement... Enfin, ça fait aussi référence voilà, à une utilisation... multimillénaire en fait.
Multimillénaire et qui commence, et voilà, quand on nous dit voilà, mais l'alcool c'est une tradition française, le chanvre non, faut rappeler qu'on a retrouvé du chanvre dans des tombes gauloises récemment.
À Clermont-Ferrand.
Et voilà, donc du coup, voilà, il va falloir se calmer et ramener hein, les choses dans leur réalité. Le chanvre fait aussi partie des choses traditionnelles qu'on trouvait en France. Moi, quand je regarde les cartes d'il y a un siècle, vraiment au début du siècle dernier, on voyait les cultures en France, il y avait du chanvre quasiment sur la moitié de la carte, quoi. À côté du blé, du maïs, de l'orge, etc. Quoi.
Bah oui, encore une fois, bon, on radote, hein, mais avant l'arrivée du pétrole, les fibres textiles synthétiques, bah, il fallait du chanvre pour faire des cordages, des habits, des toiles de parachute, des toiles de tente... des voiles de bateau, des chaussures, enfin, après tout, quoi. Voilà, alors donc, dans la Creuse, ils sont très enthousiastes, ils attendent de plus que... Alors, certains sont prêts à y aller avant les autorisations, d'autres souhaitent plutôt avoir les autorisations, hein. D'autres ne sont pas prêts à prendre tous les risques pour pas non plus se casser la gueule, parce que ben vous le savez peut-être ou vous le savez pas, mais aujourd'hui être paysan en France ben c'est pas simple. On sait qu'il y a beaucoup de paysans qui sont quasiment sous le seuil de pauvreté. Tous ne sont pas la FNSEA ou ne sont pas des grands céréaliers, hein, loin de là, très très loin de là. Et dans la Creuse en tout cas c'est pas forcément le cas. Et que donc voilà, ils gagnent pas non plus énormément d'argent. D'ailleurs dans cet article, dans un article du Parisien, il y en a un qui dit à l'autre, toi tu te tires un SMIC ? Et l'autre lui dit, ben non, pas encore. Et l'autre lui dit, ben non, pas, moi non plus. Et l'autre dit, ben voilà, aujourd'hui nos cultures ne nous permettent pas de nous payer. Voilà. Donc on imagine qu'effectivement ils attendent ça de pied ferme. Alors dans le quatuor là, qui discute, il y en a un qui dit, moi je préfère avoir le feu vert de l'État avant de me lancer. Hein, l'idée de remplacer des traitements lourds par du chanvre thérapeutique, ça m'emballe, mais on va quand même attendre qu'on ait les autorisations. Voilà.
On va continuer ça, un peu vite sur tous ces articles.
Oui, ensuite, parce que bon, c'est un peu redondant aussi.
Il y en a un autre toujours dans le Parisien, donc sur le cannabis thérapeutique.
Voilà, très intéressant.
Je n'en changerai pour aucun médicament. Donc voilà, c'est surtout l'interview d'Olivier, donc qui a 39 ans, qui a eu un accident du travail et qui s'est fait, il a trop forcé, ses vertèbres ont été endommagées.
En 2011.
Voilà, ouais. Et depuis, bah, il a des douleurs, des picotements, des pincements, des décharges électriques du matin. Dès le matin, donc tout le temps, c'est invivable. Donc la morphine le soulageait sur le moment, mais ça le faisait vomir, il perdait l'appétit, donc c'est pas le bon médicament. Donc évidemment, avec de tels syndromes, ben, il cherchait autre chose. Et donc, ben, il est tombé sur le cannabis, et ça, hein, il a préféré. Et donc, il fume sa propre production maison. Il fabrique son beurre au CBD, il déguste avec de confiture au petit déjeuner. Et donc très vite, ses douleurs deviennent supportables. Il a mal, mais moins, il peut travailler. Avant, il ne pouvait pas tenir deux heures par jour au travail. Là, maintenant, il arrive à le faire voilà, pendant toute la semaine. Il ne comprend pas que ce soit toujours interdit en France. Et il pense que c'est une aberration. Pour lui, ça lui permettrait de se soigner. Il ne changerait pour aucun médicament. Voilà.
Et on le comprend bien.
Bon, après, l'article rappelle ce que dit la loi, mais ça, ça va. Là, la plante ne doit contenir moins de 0,2% de THC. Voilà.
Alors, on rappelle... Si, je veux bien envie de rappeler, c'était une chose aberrante aussi, hein, selon laquelle seules les graines et les fibres peuvent être utilisées, et pas les fleurs, alors que c'est dans les fleurs qu'il y a les principes actifs. Aïe, 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 on est vraiment en France. Hein. C'est incroyable. Voilà. Et il y a un dernier article du Parisien qui nous parle du CBD, la molécule réputée antidouleur, avec le point de vue de différents spécialistes. Michel Reynaud, président du Fonds Action Addiction, très enthousiaste sur le CBD, qui dit voilà, c'est prouvé, cette molécule est un antalgique, un rapport de l'Académie américaine de médecine 2017, publié dans l'une des plus prestigieuses revues scientifiques, fait justement état de ses bénéfices pour chaque pathologie. À l'inverse, Florence Vorspan, addictologue de l'hôpital Fernand Vidal, elle est beaucoup plus prudente, voire même on comprend hein, entre les lignes qu'elle est même plutôt contre. Même si là elle est assez prudente, elle dit tout reste à démontrer, hein. Son action sur la douleur n'est pas certifiée. Ouais, je ne sais pas où elle se documente, elle. William Lovenstein, qu'on ne présente plus, lui recense une centaine d'études qu'il juge recevables, et il dit comme ça, avec le THC, je trouve que c'est pas mal quand même qu'il dit ça, avec le THC, il réduirait le risque de glaucome et agirait sur Parkinson, mais rien n'est indiscutable, d'où la nécessité de faire de la recherche. On est bien d'accord.
Bah, de toute manière, il a bien raison de dire avec le THC, parce qu'on a trouvé certaines maladies qui se soignaient au CBD, et d'autres qui se soignaient au THC, et d'autres avec un mixte. Enfin, c'est pas si simple que ça.
Mais, voire même toutes se soignent avec un mixte, selon les dosages des THC, CBD, CBN et les autres cannabinoïdes. Mais en tout cas, ne prendre que le CBD, par exemple, à mon avis, ne sert à rien.
Bon, on va quand même pas dire que c'est la panacée, ça a déjà été fait dans le passé. Mais
et ça n'a pas marché. Ça n'a pas produit les effets escomptés.
Voilà. Le cannabis, qui est très utilisé au 19e siècle, est petit à petit tombé en désuétude pour être abandonné dans les années 50.
Moi, je dirais pas qu'il est tombé en désuétude. Petit à petit, on l'a éjecté et on l'a diabolisé et on a criminalisé ses usagers. Plutôt ça, hein. Et effectivement, par la suite, vu le contexte, il est tombé en désuétude, on est d'accord. Voilà, donc pour la Creuse. Il nous reste plus beaucoup de temps.
On va se faire vite fait le sing-song peut-être de... qui apporte pas grand-chose.
Non,
trois choses de génération libre, donc avec
un article du JDD,
d'Europe 1, qui reprend donc un interview de Gaspard Koenig. Donc voilà, pour lui, faut en finir avec l'hypocrisie, on est bien d'accord. Hein. Et d'ailleurs, monsieur Gérard Collomb, vous êtes hypocrite, vous connaissez des gens qui fument. Ok. Voilà, alors qu'est-ce qu'il raconte l'État si l'État contrôlait la production et la vente de la marijuana, les dépenses publiques en matière de répression chuteraient de 523 millions d'euros. Donc déjà tout ce contrôle social que les policiers, les forces de l'ordre exercent sur les jeunes disparaîtrait. Ça aussi, ça libérerait pas mal de choses. Et ça sans doute diminuerait la haine qui existe dans certains endroits. Et ensuite, grâce aux taxes, il pourrait se faire plusieurs milliards. La seule petite erreur où il faut nuancer, c'est qu'ils prennent 80% de taxes comme pour le tabac. Mais si on avait 80% de taxes, je ne sais pas si ça serait vraiment rentable. C'est des choses quand même à noter, à voir. C'est aussi une grande discussion qu'il y a, je ne sais plus où on l'a trouvé, sur le taux de TVA, si on légalisait. Voilà, mais bon, pour revenir à cet article et à revenir sur ça, lui, il dit une chose aussi intéressante, ce rapport de Génération Libre. Selon les statistiques officielles, 700 000 Français consommeraient régulièrement de la marijuana, un chiffre largement sous-estimé par certains, qui évoque plus d'un million de personnes. Moi, après, ça dépend de quoi on parle, si c'est des gens, des consommateurs. Qu'est-ce qu'on dit par régulier ? Parce que 700 000, c'est les quotidiens, peut-être. Là, je l'accepte.
Régulier, c'est au moins une fois par mois, je crois.
Et si on est une fois par mois, on est là, une fois par semaine, je pense qu'on est à 3 millions. Une fois par mois, je pense qu'on est à 5 ou 7 millions.
Ouais, je crois que t'allais dire 10 ou 15 même. Hein.
Non, là on arrive à 15 millions, c'est ce qui est revendiqué pour les gens qui ont testé au moins une fois dans leur vie. Faut pas exagérer.
Oui, mais on sait que toutes ces estimations sont en dessous de la réalité. C'est toujours pareil quand il y a quelque chose, un phénomène qui est... voilà, un comportement illégal, clandestin, on est toujours en deçà de la réalité.
Bref, en conclusion, Bhaskar Koenig, et ça fait la bonne liaison avec l'article d'avant, réorienter l'agriculture française, alors que des entreprises sont en train de se monter en Europe, la France est en train de rater le coche, souligne Bhaskar Koenig. La France pourrait réorienter une partie de son agriculture et même devenir leader du fait du poids de son marché intérieur, propose le philosophe. Une légalisation permettrait en outre de placer l'argent du marché noir dans le circuit classique. Cela permettrait de transformer les petits dealers hors la loi en entrepreneurs agréés. Voilà. Avec, voilà, est-ce que le... Et là, c'est l'article suivant du point.